Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités, ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité et pluralité chez OnePoint. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Sabrina Besguige, leader product manager chez OnePoint, sélectionnée en équipe de France Master pour participer au championnat du monde de hockey subaquatique en Australie à Brisbane. C'est parti.
Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça?
Vous mériteriez vraiment d'être blanc.
J'ai jamais pu saquer les gouines.
Je suis bien d'accord avec la grosse.
Je vous propose pour cette nouvelle édition de rencontrer Sabrina Besguige, née en région parisienne. Elle se découvre très jeune une passion pour la natation qu'elle peut pratiquer grâce aux aides au temps libre proposées par la CAF. Au lycée, souhaitant continuer à faire un truc dans l'eau comme elle dit, elle participe à une initiation au hockey subaquatique. Piquée par cette pratique sportive hors norme, elle s'y implique à tous les niveaux. Pour commencer par la création d'une équipe féminine au club d'Asnières-sur-Seine, elle devient rapidement capitaine d'équipe, entraîneur et arbitre. Actuellement mère de deux enfants, leader product manager chez OnePoint, elle fait partie des 12 joueuses de l'équipe de France Master Féminine de hockey subaquatique pour participer au championnat du monde cet été en Australie. Bonjour Sabrina.
Bonjour Loubna.
Alors, pratique sportive peu connue du grand public, pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le hockey subaquatique ?
Volontiers. Alors, le hockey subaquatique, c'est un sport d'équipe qui se pratique sous l'eau, en apnée.
D'accord.
Dans une piscine, idéalement une piscine de 2 mètres de profondeur, 2,20 mètres, c'est l'idéal. On joue à 6 contre 6 avec des remplaçants. On a le droit à 4 remplaçants et on peut tourner à tout moment. Et l'objectif, c'est de prendre le palais le plus vite possible et de marquer des buts. Donc, plus on a marqué de buts, plus on a gagné. Donc, on est 6 joueurs, on fait des relais en apnée. On a généralement une ligne avant de 3 joueurs et une ligne arrière de 3 joueurs. Et on se relaie pour mettre les buts.
D'accord. Donc, en fait, tu as des espèces de goals sous l'eau, quoi, de cages de goals sous l'eau. Et vous devez chacune, puisque c'est des équipes féminines, mettre le palais
dans le but.
Dans le but, merci beaucoup.
Voilà. Donc, je vais préciser peut-être un peu l'équipement. Donc, on est équipé de palmes, masques et tubas. Donc, c'est pour ça qu'on est en apnée. On a une petite crosse qui n'est pas du tout une crosse de hockey sur glace. Hein. C'est vraiment une petite crosse d'une vingtaine de centimètres.
Ouais, donc tout petit.
Qu'on tient à la main. Et donc, on s'immerge dans l'eau, au fond de la piscine, hein, comme si on nettoyait... Le fond de la piscine, d'ailleurs, elles sont souvent très propres après notre passage.
Mais ça veut dire quoi comment vous faites pour respirer? C'est-à-dire, comme vous êtes en apnée, donc vous faites l'action et après vous remontez à l'air libre. Comment ça se passe?
Exactement. En fait, on se fait des petites actions en apnée d'une quinzaine de secondes. Ça peut être un peu plus ou un peu moins selon le poste. Donc, si l'action est à droite, ça va être plutôt l'ailier droit ou le pivot droit qui vont faire l'action. Et ensuite, on fait des relais. L'ailier va faire une passe à son avant-centre qui va remonter et on fait des petits relais comme ça et on respire à la surface mais on regarde toujours le jeu. Donc c'est pour ça qu'on a un masque et un tuba.
D'accord.
On ne sort pas la tête de l'eau à chercher de l'air, à enlever son tuba.
D'accord.
On regarde toujours ce qui se passe sous l'eau avec notre masque.
Attentive au jeu et à ce qui se passe sur le terrain.
Exactement.
Et alors, juste une question, comment t'es venue cette idée de cette pratique sportive un peu hors norme? Comment t'es tombée dans la soupe, si je puis dire ça ainsi?
Tu le précisais en introduction, en fait, moi j'ai commencé la natation à l'âge de 10 ans. Donc de 10 ans à 17 ans, j'ai nagé, beaucoup nagé. J'étais pas très bonne d'ailleurs, mais je nageais beaucoup. Et puis en fait... ça me saoulait, hein, si je peux me permettre de nager. J'aimais pas trop ça, mais j'adorais être dans l'eau. Je me sentais vraiment bien dans l'eau. Et puis un jour, au lycée, en première à l'époque, je discutais avec une amie d'enfance et je lui demandais... on parlait de nos sports. Et je lui disais, moi je fais de la natation, mais je pense que l'année prochaine je vais arrêter, mais j'ai envie de continuer dans l'eau, mais la plongée je trouve que c'est un peu pour les vieux, le water polo j'aime pas trop, enfin, en vrai il n'y avait rien qui me correspondait, et là c'est une amie que je connaissais depuis qu'on est nés, hein, qui me dit, fais du hockey subaquatique, et là je lui dis, mais de quoi tu me parles? Elle me dit, je fais du hockey, et donc je la croisais en fait après mes entraînements de natation, et je pensais que c'était une plongeuse,
d'accord,
et pas du tout. Donc l'année suivante, l'année de ma terminale, donc je suis allée au forum des associations de la ville d'Asnières-sur-Seine. à la rencontre du club d'Anières, et c'est comme ça que je me suis inscrite, et puis ça fait 20 ans que ça dure.
Oui, et quand tu arrives dans ce club, il n'y a pas d'équipe féminine au départ, c'est toi qui constitues cette équipe féminine, avec, j'imagine, quelques volontaires qui étaient déjà dans le club, ou est-ce que tu as été chercher...
En fait, cette année-là, on a été plusieurs filles à démarrer le hockey la même année, et en fait... j'ai contribué en fait à la construction de cette équipe. J'avais une joueuse qui est maintenant une de mes meilleures amies qui s'appelle Sonia, qui en fait s'est dit bah on va lancer cette équipe féminine. On a commencé avec un B-club, donc le club de Garges dans le 95, donc c'était Anières Garges. Et donc c'est un ancien joueur de l'équipe une masculine d'Anières qui nous a coachés. Donc du coup très rapidement voilà, j'ai pris les rênes de cette équipe parce que d'autres joueuses avaient arrêté. Et d'autres joueuses nous rejoignaient. Donc, du coup, j'étais capitaine de cette équipe féminine toute nouvelle.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours en tant qu'athlète de hockey subaquatique? J'imagine qu'il y a des moments très forts que tu as dû vivre à travers ta pratique. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ces dernières années? Je sais qu'il y a eu plusieurs sélections en équipe de France. Il y a eu des moments où tu n'étais pas sélectionné non plus. Et ça, c'est important aussi de ne pas oublier ces échecs-là. C'est ce que tu nous disais. Donc, après 20 ans, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir, comme moment fort?
Il y a beaucoup de moments très forts depuis 20 ans. Donc, en parlant de l'équipe féminine d'Anières, en fait, c'était au bout de quelques années, on a atteint la première division alors qu'on était nouvelle et on a fini quatrième alors que personne ne nous y attendait. Et même nous, d'ailleurs, moi, j'avais pas compris qu'on jouait un quart de finale pour aller en demi. Et je vois tout le monde nous féliciter. Et je pensais juste que j'avais battu une équipe qui m'avait battu hier. Donc, du coup, cette première accession en D1 et en plus finir dans le top 4, c'était déjà un moment merveilleux, c'était en 2007 déjà. Puis j'oublie pas aussi que grâce au hockey, j'ai quand même rencontré mon mari, qui est le père de mes enfants, donc ça fait maintenant 20 ans qu'on se supporte, donc c'est grâce au hockey.
D'accord, donc tous les deux passionnés de hockey subaquatique, voilà. Fait de la compète comme toi. Donc,
tout à fait, sauf cette année, il me laisse la place, mais en général, on essaie de faire en même temps, mais avec les enfants, évidemment, on peut plus faire comme on veut. Ensuite, j'ai eu une première sélection en équipe de France élite en 2009, où on a fini troisième.
Donc, élite, c'est les jeunes, hein, c'est ça?
Alors, c'est pas les jeunes, c'est juste les meilleures joueuses.
D'accord.
Elles peuvent être jeunes, moins jeunes, etc. Mais c'est vraiment l'équipe qui va représenter la France au haut niveau. Alors que les masters, c'est vraiment pour une catégorie d'âge. Donc, au hockey subaquatique, c'est pour les plus de 35 ans, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
D'accord, c'est ça la différence entre master et élite.
Okay. C'est comme une équipe de foot ou de hand. Quand on parle, il y a sans doute des équipes master, mais on n'en parle pas. Donc, pour une équivalence, c'est un peu ça. Et un des moments en équipe de France, il y a eu deux moments, mais le meilleur moment, c'était en 2017, ouais. Où on finit championne d'Europe. En titre après un match qui a duré quasiment 45 minutes parce qu'en fait au bout du temps réglementaire on était toujours à égalité et ensuite après le temps réglementaire on a des prolongations comme au foot hein, sauf que c'est moins long donc c'est 2 fois 15 minutes le temps réglementaire, 2 fois 5 minutes la prolongation et au bout de la prolongation donc là on était déjà à 4-4 en termes de but, il n'y avait toujours pas de vainqueur donc on est parti au but en or, mort subite. Et là, on fait l'action parfaite et on gagne, alors que l'équipe contre les Espagnols, alors qu'elle nous avait battus en round robin. Et là, c'était un match vraiment incroyable. Toute la piscine était contre nous. On était là, on a gagné. Et,
comme c'était quoi, absolument un match fabuleux. N'est jamais joué d'avance jusqu'à la dernière
minute. Et surtout,
minute,
mais c'est ça, parce que jusqu'à 1 minute 30 de la fin du temps réglementaire, elle menait 3-1. Et elles se voyaient déjà championnes, elles avaient peut-être raison, mais en fait,
moi,
personnellement, je me disais que c'était pas possible qu'on perde, quoi. Et je jouais un peu, comme toujours, un peu comme une folle. Mais du coup, ça a bien contribué à la victoire finale.
Ouais, parce que tu aimes gagner.
J'aime gagner, j'aime surtout me dépasser et jouer à fond. Des fois, on a des défaites qui sont entre guillemets belles parce qu'on s'est donné à fond, l'équipe est plus forte, c'est la vie, ou alors ça se joue à des détails. Mais le plus important, c'est vraiment de se donner à fond à chaque instant.
Et alors, parce que tu y a cette expérience de plus de 20 ans de hockey subaquatique à haut niveau, en quoi justement cette expérience sportive, elle t'a aidé à développer tes compétences en tant que consultante, puisque aujourd'hui tu es leader product manager. Quel lien tu ferais entre ta pratique sportive, les valeurs et tout ce que ça t'a inculqué par rapport à aujourd'hui ta pratique professionnelle au quotidien?
Bah, c'est extrêmement lié déjà sur d'un point de vue organisation. Bah, tout simplement pour pouvoir à la fois pratiquer à un niveau sa pratique sportive, être maman, être consultante, faut être très organisée, et c'est ce que j'essaie de mettre en place dans toutes mes missions, pas plus tard que ma mission actuelle d'ailleurs. Donc c'est vraiment mettre un cadre dans lequel on pourra dérouler sa mission sereinement. Et pas se faire surprendre par des deadlines, par des imprévus. Il y a toujours des imprévus, mais plus on est organisé, plus on a cadré le sujet, bah, plus simple sera la mission.
Donc de la rigueur.
Donc ça, c'est de la rigueur, de l'organisation. Ce que m'apporte le sport et que ça peut m'apporter peut-être en tant que consultante ou même en tant que femme, c'est peut-être la confiance en soi. Parce que même quand on se prend des baffes, si on peut dire, des échecs, de non-sélection, etc. Moi, je parle jamais d'échecs dans ma vie, en vrai. Je parle toujours de... Alors, c'est très cliché de dire ça, mais je dis toujours qu'on apprend toujours de ses échecs. Et alors, sur le coup, ça fait très mal, mais en fait, derrière, j'essaie d'analyser le pourquoi et surtout ce que ça m'apporte. Et derrière, bah, même si on réussit pas, on essaie de travailler plus dur ou mieux pour réussir. Et souvent, on y arrive mieux derrière. Donc, du coup, j'ai cette confiance en moi qui me dit, bon... et puis même en cas d'échec sur une mission, on essaie d'éviter, hein, surtout en ce moment. Mais je me dis, mais bon, ok, là ça le fait pas, mais ça va le faire. Il faut trouver pourquoi ça coince. Et du coup, c'est la persévérance finalement.
Ouais, ouais.
Donc j'ai ce côté-là où je lâche jamais. Donc aussi bien au travail que dans ma vie privée, qu'en éduquant mes filles, qui lâchent pas non plus. Donc des fois, c'est un peu compliqué.
Alors justement, tu parles de ta vie personnelle, de ta vie de famille. Comment on arrive à concilier donc vie de famille, vie de consultante, vie d'athlète de haut niveau, plus tu es très engagée, hein, c'est ce que je disais, t'es arbitre, t'es entraîneur, t'es capitaine d'équipe, comment on arrive à concilier ces trois vies?
Déjà, faut le soutien de sa famille, donc de mon mari, hein, je le remercie au passage, parce que si on n'est pas en confiance au sein de sa famille, c'est compliqué de pouvoir tout faire. Donc de savoir qu'on est en face sur ces règles-là, entre guillemets, c'est déjà d'un grand soutien. Ensuite, bah, on s'organise et on fait des choix. Peut-être que bah, parfois, on va rater des week-ends entre amis, partir voir des amis loin, etc. Bon, bah, on fait le choix de privilégier notre pratique sportive au détriment d'événements amicaux, familiaux. Donc ça, c'est les premiers choix qu'on fait. Après, c'est de l'organisation. En tant que consultant, et j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir de la souplesse dans l'organisation de mon travail, contrairement à d'autres métiers qui ont des horaires très fixes et très rigides. C'est pas le cas quand on est consultant, sauf évidemment quand on a des contraintes clients très fortes. Mais globalement, on badge pas pour savoir à quelle heure on arrive, on badge pas pour savoir à quelle heure on sort. Donc je m'organise aussi pas mal sur mon heure de déjeuner.
Oui, parce que ça te fait des grosses journées. Donc tes entraînements, c'est à quel moment? C'est le matin, le soir, entre midi et deux?
Alors ça peut être à tout moment. Ouais. Donc mes entraînements club, c'est le lundi et le mercredi soir. Ayant un mari pompier, un planning qui n'est pas fixe, du coup j'arrive au moins à faire un entraînement club régulièrement. Après, avec ma pratique d'une vingtaine d'années, c'est plus le jeu que je dois perfectionner, c'est vraiment maintenir ma condition physique.
Bien sûr.
Et donc ça se fait vraiment à tout moment. Ça peut être le matin avant d'aller au travail, mais je mentirais en disant que je le fais parce que je suis pas du tout du matin. Donc ça, c'est pas vrai pour moi, mais j'ai beaucoup de
coéquipières
qui le font.
Et puis il y a des enfants emmenés à l'école le matin.
Non, mais moi, je suis pas du tout du matin. Donc j'ai essayé et j'ai peut-être réussi une fois à me lever à 7h, faire un footing et je me suis rendormie direct après. Donc ça marche pas.
Donc pas le matin pour
toi. Pas le matin pour moi. En revanche, sur la pause déjeuner.
Ouais.
Après le travail, si mon mari travaille pas, parce que sinon faut récupérer les enfants, ou sinon c'est quand les enfants dorment. Une fois qu'elles sont couchées, bah, du coup, je fais ma séance à la maison de renforcement musculaire, de yoga. Alors, je fais des choses où je saute pas trop parce qu'il y a les voisins en dessous.
Pour pas les déranger.
Mais il y a énormément de choses qu'on puisse faire à la maison.
Maintenant, tu disais, ça fait 20 ans que tu pratiques le hockey subaquatique. Quel constat tu fais de la place des femmes dans des pratiques sportives un peu exceptionnelles? C'est vrai que c'est un sport qu'on connaît moins. Je sais que dans d'autres activités sportives, c'est un peu compliqué. Je pense par exemple au financement. Je pense aussi à l'organisation de cette équipe. Je crois que vous êtes 12 joueuses, toutes travaillent, toutes ont une activité professionnelle, ont des enfants. Comment, un, vous arrivez à pouvoir vous entraîner tout ensemble, parce qu'il y a les entraînements individuels, mais il y a les entraînements collectifs. Mmh. Et puis surtout, est-ce que vous avez le sentiment que la fédération française vous suit? Je sais que c'est vous-même qui payez votre propre entraîneur. Donc voilà, il y a quelques difficultés dont tu ne faisais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer plus longuement?
Ouais, tout à fait. Donc c'est pas un sport, le hockey subaquatique, c'est pas un sport reconnu comme étant un sport de haut niveau. Donc on n'a pas, alors pas pour les masters, là il y a eu quand même une révolution sur ce sport-là, c'est que les équipes élites ont le statut de haut niveau. Donc ça, c'est très récent, ça date vraiment de cette année.
Parce que tu peux être une équipe élite dans n'importe quelle pratique sportive, t'es pas forcément reconnu.
Non, ça dépend vraiment des sports et des fédérations associées, comme au même titre que tous les sports ne sont pas des sports olympiques, par
tout
exemple.
Tout à fait.
Donc d'un point de vue fédéral, le budget est plutôt associé aux équipes élites et effectivement les équipes masters qui pourtant sont championnes du monde en titre en 2018.
D'accord.
Les deux équipes masters ont gagné leur championnat du monde et c'était en tout cas pour les filles, c'était la première fois qu'il y avait une médaille au championnat du monde. Donc malgré ce titre-là, la fédération ne soutient pas financièrement les équipes féminines. Donc sans doute pour des raisons de budget, j'ai pas tous les éléments en ma possession, mais du coup c'est ce qui fait qu'on doit payer l'ensemble de notre déplacement en Australie. Et puis en plus c'est en Australie, c'est pas, des fois on a des championnats qui sont à côté. Là en l'occurrence cette année c'est au bout du monde.
Donc c'est toute votre poche avec le matériel, l'entraîneur, le staff médical.
Ouais, tout à fait. De l'équipement, pas le mastuba, l'équipement vestimentaire. Les tenues même fédérales, les maillots de bain, les bonnets, tout notre équipement, équipe de France, sac à dos pour mettre notre équipement. On est accompagné d'une ostéo ou kiné, je sais plus, j'espère qu'elle m'en voudra pas. Non, elle est kiné, il faut aussi financer une partie de son déplacement et surtout...
les soins qu'elle vous pratique.
Voilà,
ouais.
On a nos deux entraîneurs, ils vont aussi également payer une partie de leur déplacement, mais l'idée c'est qu'on puisse le prendre en charge parce qu'ils le font bénévolement également. Donc,
est-ce que tu as le sentiment que c'est parce que vous êtes une équipe féminine ou c'est parce que c'est juste cette pratique sportive qui est peut-être un peu moins populaire?
Non, là c'est la même chose pour l'équipe masculine. Ouais. Donc là c'est vraiment lié à l'engagement de la Fédé par rapport à nos équipes masters et au budget qu'elle peut allouer. Donc je dirais que par rapport à ça on voit pas forcément de différence sur le fait qu'on soit un homme
ou une femme. Et là, donc, vous êtes en plein préparatif. Est-ce que tu peux nous raconter comment on se prépare pour des championnats du monde, en plus à l'autre bout du monde, c'est le cas de dire, en Australie. En plus, ça approche à grands pas. Je crois que c'est du 20.
C'est du 20 au 30 juillet. Donc, on part. Chacun a pris un peu ses billets comme il pouvait. Je pars avec une autre coéquipière. On fait au plus court parce qu'on a des contraintes familiales. Donc, on part.
Et professionnel aussi.
Et professionnel. Donc, on fait au plus court. On fait un aller-retour express en Australie, mais qui nous prend 2 semaines et demie en vrai, alors qu'on essaie vraiment de faire au plus court. Donc en termes de pratique, enfin de préparation, on s'entraîne évidemment individuellement. Donc là, on essaie vraiment d'être sur des 5-6 entraînements par semaine, surtout à 3 mois de l'échéance, mais ça va pas forcément être des entraînements très longs. Mais par contre, il faut que ce soit très dense et très intense, donc beaucoup de fractionnés, de cardio. Ensuite, on se retrouve lors des stages France, équipe master. Donc, il y en avait un ce week-end à Sarcelles. On avait la finale de la Ligue More Sport. Alors, moi, j'avais décidé, c'était mon seul week-end où je jouais avec mon équipe club. Donc du coup, on était en finale contre l'équipe de France Master de ce tournoi. C'est un tournoi.
Ah oui, parce qu'en fait, tu es à la fois membre d'un club et tu es membre de l'équipe de France,
exactement,
qui est encore autre
chose. Exactement. Donc là, mon équipe féminine, donc on joue à Paris, on est l'équipe de Hope à Paris dans le 15e. On prépare les championnats de France qui ont lieu fin mai.
D'accord.
Au Puy-en-Velay.
Ok.
Donc on a toujours
sur tous les fronts.
Bah, c'est la passion. Donc du coup, il y a la préparation avec le club. Donc ce week-end, j'ai joué dans mon équipe club, mais je jouais contre mon équipe nationale.
Oui, nationale, tout
voilà,
à fait.
Donc on a joué l'une contre l'autre en finale de notre poule. Et donc l'équipe club a perdu 4-2 contre l'équipe nationale. Et je suis repartie avec un beau bleu, peut-être que tu vois là mon nez.
Oui, un petit peu, un petit
voilà,
peu. J'ai
un beau dégradé
bleu
de couleur. Donc je me vengerai en stage France parce que je sais qui m'a tapé sous l'eau, n'est-ce pas Cécile? Donc on se retrouve dans 2 semaines, le week-end du 8 mai, on fait un stage long de 3 jours en Bretagne, donc pour perfectionner notre préparation.
Oui, et puis la cohésion d'équipe.
Voilà, la préparation, la cohésion d'équipe, les phases de jeu, voilà, tout ce qu'il faut faire pour avoir une équipe prête le jour J. Et on aura donc ensuite on a les championnats de France fin mai où presque toutes les joueuses division 1 pardon, où presque toutes les joueuses jouent en division 1. Donc là on va jouer les unes contre les autres. Et ensuite on aura un dernier stage de préparation avant le départ qui sera le dernier week-end de juin. En Bretagne aussi. Donc c'est comme ça qu'on se prépare. Et en plus de ça, on a fait appel à un préparateur physique pour qu'il puisse nous aider à mieux préparer, à mieux nous préparer en prenant en compte le décalage horaire.
Ah oui, donc, parce qu'il y a cette... Oui, physiquement, voilà, ça a un impact.
Exactement. Donc,
en termes de récupération.
C'est exactement ça. Donc la préparation du sommeil pour pouvoir gérer cette phase de décalage horaire, donc on est suivi et on a également une sophrologue qui nous suit d'un point de vue individuel et collectif pour que l'équipe soit vraiment prête mentalement parlant. On espère à gagner.
Pour terminer, je voudrais te poser une avant-dernière question. On finira par une autre question, mais comment penses-tu que le sport peut aider à faire qu'un environnement de travail soit plus inclusif? Est-ce que tu penses qu'il y a des initiatives qui peuvent être mises en place pour favoriser l'inclusion et la diversité grâce au sport dans le cadre de l'entreprise? Est-ce que c'est des choses qui te parlent?
Bah, c'est une très bonne question. J'en parlais pas plus tard que ce midi avec une collègue. Alors comment l'expliquer? Déjà, ce que le sport peut apporter, c'est vraiment la diversité des profils qui permet vraiment d'ouvrir l'esprit. Donc on peut pratiquer du sport à tout niveau,
oui.
Quel que soit
l'âge,
son sexe, son handicap. Moi-même, j'ai un handicap léger puisque je suis malentendante. Des fois, c'est pas facile d'entendre le signal sonore.
Sous l'eau, ouais.
Mais en tout cas, c'est pas compatible avec une pratique sportive. Et par rapport à l'entreprise, on voit beaucoup aussi. Alors, c'est peut-être plus chez les sportifs de niveau, mais pas que. Les entreprises peuvent aussi aider à la reconversion des athlètes de haut niveau. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau ou pas qui après leur carrière sportive font des dépressions qu'en fait ils ont connu que leur sport dans leur vie, ils se sont impliqués à 200% et pour le coup ils perdent complètement confiance en eux et ils savent pas vers quelles entreprises se tourner. Donc en fait, faudrait qu'on arrive à mettre en place des parcours.
Programmes. Mais ça, voilà. Ça se développe de plus en plus, ces fameux programmes de reconversion professionnelle d'anciennes athlètes de niveau, justement de les accompagner dans un projet professionnel, les accompagner sur de la formation pour pouvoir, parce que voilà, il y a des secteurs d'activité qui sont très heureux de pouvoir accueillir ce type de profil, comme tu le disais. Hein, il y a de la rigueur, il y a du sérieux, il y a de la persévérance. Il y a des humanités que vous avez développées qu'on retrouve peut-être pas chez d'autres collaborateurs, en effet.
Oui, complètement.
Tu voulais peut-être ajouter là-dessus quelque chose là-dessus, ou pas forcément, tu n'es
pas
obligé.
Pas forcément.
Moi, je voudrais juste avant de clore cet échange te demander qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Les collègues à OnePoint ou toutes celles ou tous ceux qui écouteront ce podcast, s'ils avaient envie de soutenir cette équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? N'hésite pas.
Vous pouvez venir à ma rencontre déjà. Je pourrais vous en parler un peu plus. Non, aujourd'hui, ce qu'on a mis en place au sein de l'équipe féminine master, c'est qu'on a une association de l'équipe de France Master à laquelle on peut faire des donations pour pouvoir contribuer à l'organisation de ce gros déplacement. C'est un budget d'environ 4000 euros par personne. Vous pouvez aussi tout simplement suivre notre page Instagram. On n'a pas de page LinkedIn puisqu'on n'est pas pro. Donc on a une page Instagram et Facebook de l'équipe de France féminine où on partage vraiment notre quotidien.
D'accord.
Les entraînements qu'on fait, les publications qu'on peut avoir dans la presse.
C'est une façon de garder le contact avec vous, de vous suivre, de vous encourager.
Exactement. Et puis après, l'important au-delà de la partie financière, c'est de faire connaître notre sport, de faire connaître notre équipe féminine. Tu en parlais tout à l'heure, Loubna, mais c'est vrai qu'on est une équipe un peu particulière parce qu'on est principalement et majoritairement des mamans. Et dans d'autres sports, c'est très compliqué d'être maman et sportive. Il y a beaucoup de sportives qui arrêtent leur carrière au moment où elles deviennent maman. Et là, on a eu récemment au football avec l'exemple de Amel Majri qui est venue à Clairefontaine avec sa petite de 9 mois parce qu'on l'y avait autorisé et c'était une première. Et on est en 2023. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de voir mes mamans hockeyeuses venir en compétition avec leur enfant, pas plus tard que ce week-end, j'ai deux coéquipières qui étaient là avec leur nourrisson en train de les allaiter sur le bord du bassin et d'aller jouer, etc. J'ai fait la même chose. Donc il y a peut-être des choses à soutenir d'un point de vue des femmes et des mamans pour leur dire qu'en fait il faut pas se mettre de barrière, tout est possible, mais c'est vrai qu'un coup de main
c'est
pour que ce soit un peu plus simple, on dit pas non.
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite plein de courage et surtout beaucoup de d'espoir pour décrocher une médaille. Et puis, on suivra ça de très très près. Et puis, à très bientôt, Sabrina. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Loubna. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à venir me voir.
Assassin ! Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça ?
Vous mériteriez vraiment d'être blanc.
J'ai jamais pu saquer les gouines.
Je suis bien d'accord avec la grosse.
Viens là, Tarlouse.
Pas de bras, pas de chocolat.
Moi, là-bas, je suis pas quelqu'un de foncièrement raciste.
Hein. Ok, bon boulard.